Moi, quand j'étais à l'école, hein, dans le cadre universitaire, voilà, il y a ce qu'on apprend dans les livres, mais il faut mettre en perspective cela avec la vie professionnelle.
Bienvenue dans le podcast Altitude, un podcast qui vous montre que rien n'est écrit à l'avance, qui vous fait prendre de la hauteur, qui vous montre que la liberté de changer de voie existe et qu'on a le droit de sortir des sentiers battus.
Avec des intervenants extérieurs du métier qui travaillent à côté, ça nous permet voilà, de sortir un peu du cadre purement scolaire des livres, donc du coup de dupliquer un peu ce qu'on apprend avec la vie professionnelle. Et ça c'est très très important. Pour moi, c'est indispensable.
Je m'appelle Louis, je suis étudiant en master de journalisme à l'Université catholique de Lille, et pour ce 9e épisode, je suis ravi d'accueillir Jonathan, un ancien étudiant de l'université. Il a effectué une grande partie de ses études à l'ISEA, titulaire du master comptabilité, contrôle et audit de l'ISEA, il est désormais directeur administratif et financier pour le réseau d'agences de communication Becoming. Aujourd'hui, il est avec nous pour ce nouvel épisode d'Altitude. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça te fait de revenir à l'université? Un petit peu de nostalgie peut-être?
Ah bah, beaucoup de nostalgie. Là, j'ai pris le métro pour venir ici, donc une route que j'empruntais tous les jours il y a quelques années. Ça m'a fait tout drôle de voir des maisons, des appartements se construire qui n'existaient pas auparavant, d'emprunter la même route, mais en étant plus étudiant, en étant maintenant salarié. Ça m'a fait tout drôle de rentrer ici à la Cato, de voir les peintures changer. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait aussi un système de sécurité pour rentrer, donc qui n'existait pas avant, donc on rentrait plus facilement. Ça m'a fait plaisir de voir plusieurs années après que l'établissement est toujours là, que on a décidé de m'inviter aujourd'hui. Donc je suis vraiment heureux, content d'avoir été choisi.
Parmi tes beaux souvenirs, parce que je pense que t'en as plein de l'université, et quel serait le plus marquant pour toi?
Le plus marquant, c'est des intervenants, des professeurs, des intervenants vraiment qui étaient du métier, qui m'ont fait des cours. Donc il y avait il y a la base, le socle, le scolaire, mais qui ont pris des exemples professionnels pour justement m'apprendre la matière, le métier, et qui m'ont donné la passion justement de suivre cette voie, donc de la finance. Et vraiment, ils m'ont captivé. C'est quelque chose de formidable d'avoir des intervenants extérieurs du métier. C'est une réelle chance.
Donc, ils venaient en cours, alors c'était des conférences?
C'est ça. C'était pas forcément des conférences. C'était des personnes, par exemple, on avait une matière, c'était droit des sociétés. Donc, c'était un expert comptable qui venait faire son cours, mais avec des exemples concrets de la vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment une richesse. Pour, en tout cas, l'étudiante que j'étais auparavant.
Avant de partir dans le monde de la comptabilité, de l'audit, de la finance, est-ce que tu avais un projet professionnel particulier quand tu étais au lycée?
Quand j'étais au lycée, je me destinais à devenir ingénieur. Parce que j'avais un oncle qui était ingénieur et c'est vrai qu'il me donnait cette passion de devenir un jour ingénieur. Voilà, j'avais l'idée, même tout petit, de faire ce qu'il faisait. J'avais des étoiles. Et donc, j'ai fait mes études. Bon, arrivé au bac, finalement, en second, j'avais pris une option initiation en sciences de l'ingénieur. Finalement, j'étais pas à l'aise avec ça. Donc, j'ai décidé vraiment de me réorienter et de partir plus côté chiffres et plus côté gestion finance.
Et donc, du coup, c'est pour ça que tu es parti dans la comptabilité, hein, parce que tu es un véritable amoureux des chiffres. Est-ce que tu peux nous décrire cet amour que tu as pour ces petites formes qu'on écrit sur du papier et qui nous donnent tant de maux de tête quand on a du mal?
La comptabilité, ça fait peur. On va dire quand je suis dans un repas de famille, par exemple. Ou même avec des amis que je connaissais pas, avec ma femme par exemple, quand on fait des soirées et que je dis je suis comptable, et là il y a un froid. Je sais pas pourquoi on fait peur les comptables, alors que c'est un métier qui est passionnant. Après, on voit le comptable, cravate, la chemise, les lunettes. Alors
c'est vrai que je te voyais comme ça avant de te voir arriver au studio, donc tu vois, comme voilà. Quoi, c'est un cliché qui a la peau dure.
C'est limite on va dire je suis désolé pour toi, alors que pas du tout. C'est un métier qui est passionnant, c'est un métier là, c'est les chiffres, mais il n'y a pas que les chiffres. Et ce qui est bien avec cette profession, c'est que rien ne se perd.
C'est-à-dire, et tout se transforme.
Exactement. Et c'est passionnant.
T'as fait un BTS avant de rejoindre de l'ISEA. Hein. Tout à fait. Et donc, du coup, tu as rejoint cette licence audit et financier à l'ISEA, en licence 2.
Exactement.
Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette fameuse passerelle qui nous permettait, après un BTS, d'arriver en licence 3 directement. Qu'est-ce qui te plaisait dans ce cursus en licence à l'ISEA quand t'es arrivé? Quelles étaient les matières qui te faisaient vibrer?
Alors, moi, j'aimais beaucoup l'économie, la gestion. Donc, il y avait un socle commun avec des personnes qui étaient vraiment purement lancées pour des écoles de commerce, ce genre de choses. Moi, je venais d'un BTS, donc j'étais un peu décalé par rapport à des personnes qui venaient, qui avaient fait une licence traditionnelle. Pour autant, j'ai pas trouvé de difficulté à ce mélange, et au contraire, une richesse. Et ensuite, j'avais mes propres matières de comptabilité, mais on était mélangé avec des personnes qui faisaient purement de l'économie et de la gestion.
Quelle vision tu avais du monde de l'entreprise au moment où tu es rentré, et quelle vision tu en as aujourd'hui ?
Je voyais le monde de l'entreprise comme une montagne. C'est-à-dire, quand on est étudiant, on nous fait du scolaire, on apprend des choses, et ça me paraissait un peu insurmontable. Et finalement, c'est pas du tout difficile, parce que les bagages, j'ai suivi un cursus, j'ai une formation, j'ai le savoir-faire. Après, bien sûr, on en apprend tous les jours. Y a des différences entre le scolaire et la vie réelle, la vie de tous les jours, la vie professionnelle qu'on vit tous les jours. On peut pas être expert dans tout, ça il faut le savoir. Dans mon métier, la finance, il y a des spécialistes. Il y a le spécialiste de la consolidation, il y a le spécialiste du droit fiscal.
Moi, toi, t'es spécialiste de quoi ?
Moi, aujourd'hui, je suis spécialiste de rien du tout. Je connais beaucoup de choses, mais pas dans le détail. Aujourd'hui, moi, quand j'ai une difficulté, je vais vers les spécialistes. Aujourd'hui, moi, c'est impossible pour moi de tout connaître. Et celui qui dit « je connais tout », c'est faux. C'est impossible. Donc moi, aujourd'hui, j'ai une connaissance un peu de tout. Mais quand je me pose une question, quand je suis devant une difficulté, je peux pas forcément répondre à tout. Eh ben, il y a des personnes, il y a des spécialistes, donc je vais vers eux, forcément. Donc voilà. Après, ça se paye, hein, forcément. Hein. Voilà. Mais en tout cas, j'ai une connaissance sur beaucoup de sujets. Mais
une certaine polyvalence, finalement.
Exactement. Il faut être polyvalent dans le métier de la finance. Après, ça dépend des métiers, parce qu'après on se spécialise. Hein. En tout cas, aujourd'hui, pour un DAF. Il ne peut pas être, en tout cas, spécialiste de tout.
Tu es passé par trois entreprises ou groupes, hein, comme expert, Antaris et PwC. Comment ça se passait ? Quelles étaient tes missions ? Est-ce que tes missions étaient les mêmes que celles que tu as aujourd'hui ?
Non, pas du tout.
Alors, détaille-nous un peu.
Quand on commence dans le métier de la comptabilité, on commence forcément tout en bas. Hein, ça, de toute façon, il faut commencer tout en bas. C'est vraiment important. Aujourd'hui, je manage une équipe de jeunes. Et dans mon expérience professionnelle, un exemple très concret, j'ai dû nommer un jour un responsable comptable. Et il s'est avéré que ce responsable comptable n'était pas forcément un vrai responsable comptable. Il n'avait pas finalement les bases comptables. Et donc, avait cette posture de manager, et finalement, expliquait des choses qu'elle ne maîtrisait pas. Et cette lacune, finalement, s'est transformée en pression importante et finalement a un peu perturbé le service. On peut pas être manager sans connaître les bases. On ne peut pas connaître tout. Mais en tout cas, la base, il faut la connaître. Sinon, on n'est pas légitime dans notre vie quotidienne de manager. Et c'est très, très important de gravir toutes les marches. C'est la base pour moi.
De toute façon, il n'y a pas de solution de rapidité ou de raccourci. Parce qu'à un moment donné, forcément, tu le payes forcément.
Tu le payes forcément. Après, ça dépend aussi du savoir-être de la personne. Voilà, on parlait de mon parcours. J'ai un parcours, j'ai fait du cabinet, j'ai fait de l'audit. Ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Mon expérience chez PwC, ça m'a appris en 5 ans, on va dire, énormément de choses. J'aurais pu apprendre la même chose en 10 ans dans un cabinet plus à taille humaine. Ça m'a permis de connaître énormément d'activités différentes. Ça m'a permis énormément de méthodologie, de comprendre des activités différentes, de parcourir des clients aussi de tailles différentes. Ça permet d'avoir un éventail complet. Ça m'a permis de me propulser plus vite et après de rebondir en entreprise à un poste clé.
Et du coup, toi, en tant que directeur financier et administratif du réseau d'agences Becoming, tes missions au quotidien, c'est quoi ? Tu vas manager une équipe. Quelles sont en fait tes tâches que tu effectues tous les jours, qui sont récurrentes ou peut-être que c'est pas forcément récurrent ?
C'est pas du tout récurrent et c'est rythmé aussi par l'activité, on va dire, fiscale, hein, puisque t'as des périodes hautes, t'as des périodes basses, hein, puisque t'as la fiscalité, en fin d'année, tu dois lancer les bilans, donc ils vont te prendre entre janvier et mars pour sortir des bilans. Parce que, bon, voilà, nous, dans notre groupe, on a une vingtaine d'entités juridiques, donc ça, il faut le produire. T'as des reportings, t'as la consolidation. T'as le juridique aussi.
Qu'est-ce que c'est le reporting et la consolidation ?
Le reporting, c'est la remontée. Donc, on fait tous les mois une situation, donc avec des provisions. Bon, après, je vais pas rentrer dans le détail.
Bah, essaye et moi, je vulgariserai.
C'est-à-dire qu'on fait un bilan, un compte de résultat, mois par mois. Donc avec toutes les provisions, comme si c'était un bilan annuel. Mais
d'accord, mais sur le mois.
Mais
en
sur
fait.
Le mois. Par exemple, une assurance. Tu dois avoir une assurance auto.
Oui, tout à fait.
Donc tu payes normalement une fois par an.
Oui.
Donc on va dire que tu payes 1000 euros par an l'assurance de ta voiture. Mm-hmm. Par exemple, moi je le paye en avril. Donc la charge, elle est prélevée sur ton compte en avril. Mais pour autant, tu peux diluer ce montant sur tout le reste de l'année. Et donc finalement, tu prends si c'est 1200 euros, tu payes 1200 euros, tu divises par 12, ça te fait une charge de 100 euros par mois. Et donc, t'étales, donc, t'es 100 euros chaque mois. Ça te permet d'avoir une vision mensuelle de l'activité financière de ta société.
D'accord. Et donc là, c'est la même chose pour les...
C'est la même, c'est un peu, voilà, je vulgarise, hein.
Grossièrement. Donc, t'as mieux vulgarisé que moi, du coup.
C'est ça.
Et la consolidation, c'est ?
La consolidation, c'est un intérêt quand t'as une multitude d'entités, hein, comme le groupe Bicomic, donc est composé
de
20 entités juridiques, donc Lille, Paris, Bruxelles. Donc tu agrèges tout avec des normes, hein, forcément des normes comptables, et tu viens retirer les flux interco, les flux entre sociétés. Puisque t'as la société A qui va facturer à la société B des choses, et donc ça, finalement, ça n'a pas lieu d'exister.
Ouais, c'est de l'interne.
C'est de l'interne. Donc tu crées du chiffre d'affaires d'un côté, du produit, et de la charge de l'autre. En finalité, tu peux l'enlever.
D'accord.
Et c'est ça un peu la consolidation. Je vulgarise, hein.
Totalement.
T'as d'autres choses qui doivent être calculées, mais ça, c'est important d'avoir une vue consolidation.
Et comment t'as fait pour trouver ces stages? Quels sont tes secrets? Est-ce que t'as des petits conseils à donner sur ce terrain-là, des étudiants qui, eux, sont en recherche de travail, pour que ce soit pour des stages, pour leur cursus, ou même ils viennent de finir le cursus et ils cherchent du boulot?
Bon, moi, j'ai jamais été pistonné dans mes stages. Voilà. À l'époque, hein, je faisais mes lettres de motivation à la main. Je faisais mon CV. Et puis, j'envoyais ça. Donc, je prenais pas le bottin, hein, mais je prenais donc Internet. Et puis, je prenais des entreprises qui m'intéressaient déjà, les entreprises que je connaissais de nom, qui me plaisaient. Moi, j'avais Decathlon, Leroy Merlin, c'est des chouettes entreprises du Nord. Voilà. Et je listais les entreprises qui me plaisaient. Et après, je faisais les entreprises qui étaient autour de chez moi. Donc, voilà, j'envoyais mes CV, mes lettres de motivation.
Est-ce que tu te rendais sur place pour leur donner le dossier, ou alors est-ce que tu l'envoyais par courrier?
Pour certaines, oui. J'allais là-bas, je me rendais là-bas, et donc je déposais mon CV, ma lettre de motivation, et puis d'autres, j'envoyais par courrier.
Et est-ce que justement ce déplacement physique, est-ce que ça influe, est-ce que ça impacte sur...
Exactement. Oui, justement, j'ai un stage en entreprise que j'avais fait, hein, quand j'étais en BTS, et je me suis pas lié d'amitié, mais j'ai eu une bonne relation avec la responsable comptable. Elle m'avait donné justement des petits filons, et bon, elle m'avait pris en tout cas en stage, et j'ai gardé contact. C'est ça qui est fou. C'est il y a plusieurs années, mais voilà, le fait d'avoir été sur place, d'avoir déposé mon CV, ma lettre de motivation, voilà, ça m'avait permis de décrocher un stage.
Et est-ce que quand t'es en galère, que tu te dis j'ai envoyé plein de CV, plein de lettres de motivation, j'ai pas de réponse, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour te dire bon, hey, c'est quoi, celui-là ça va être le bon, on le prend? Comment on se motive pour éviter de se décourager? Parce que finalement, encore des stages pendant que t'es en cursus universitaire, t'as le temps de revenir quand même, tu te dis bon, ça va, bon, je trouve pas de stage, ça va aller, l'année prochaine je suis encore en fac. Mais quand t'as fini cette période-là de faculté, d'université, que t'es en master 2, peut-être même tu vas faire un doctorat, et que tu te retrouves sans rien finalement, cette période un peu fluctuante et flottante, tu te dis, si j'ai pas de taf, bah j'ai rien du tout, et qu'est-ce que je fais de ma vie?
Par exemple, dans mon cas, j'ai eu la réponse, donc moi je devais commencer en septembre, j'ai eu la réponse fin août. J'étais dans l'attente, donc il y avait, je me souviens, deux cabinets, et ces deux cabinets devaient me donner une réponse, fin juin, début juillet, et je n'ai pas eu de réponse. Mais j'avais un accord, on va dire, entre guillemets, un accord, j'ai stressé jusqu'à la fin, j'ai cherché à côté, puisque bah... Et il y avait rien d'écrit, il y avait rien de signé. Finalement, ça s'est bien passé puisque on a finalement signé, en tout cas dans l'un des deux, j'avais signé mon contrat d'alternance. Mais jusqu'au bout, j'ai stressé et j'ai été dans le doute. Faut jamais désespérer, faut jamais baisser les bras.
Ça, on en prend bien évidemment bonne note. Pourquoi travailler au sein d'une entreprise de communication, au sein de la communication, plutôt qu'une entreprise un peu plus classique qui serait dans un tout autre domaine?
Alors, l'activité n'a pas été un élément...
Déterminant.
Dans mon choix. C'était plus le projet. On était 40 collaborateurs quand je suis arrivé, donc avec justement un projet de croissance très forte. Le travail, les choses à accomplir.
C'était le projet qui avait été mis en place.
Exactement. Et c'est vrai que le secteur de la communication publicité, moi je le connaissais pas du tout. C'était en tout cas un secteur d'activité que je n'avais jamais entendu parler. Donc c'était tout nouveau pour moi, c'était voilà, quelque chose à connaître.
Et tu vois, tout à l'heure tu me parlais de cette situation un peu transverse, c'était avec des étudiants qui avaient du coup des cours différents des tiens. Est-ce que là, dans ton entreprise, du coup, tu vois, tu connaissais pas du tout la publicité et la communication? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des connaissances supplémentaires grâce au fait que tu travailles dans ce domaine-là?
Complètement. On parle souvent de chiffre d'affaires, et dans le métier de la communication et publicité, on parle de marge brute. Donc c'est encore une notion différente. Et non, c'est tout, bon, après ça reste de la prestation de service, hein, c'est du service, hein, qu'on vend, mais voilà, baigné dans avec les TikTok, les Facebook, Instagram, voilà, c'est ça un peu. Pas mon quotidien, mais moi, voilà, je vois passer pas mal de choses comme ça, et c'est parlant aujourd'hui. Aujourd'hui, on entend beaucoup d'articles, justement, des entreprises qui choisissent d'abandonner, on va dire, les spots publicité, spots radio, au profit de campagnes de publicité tournées avec des influenceuses, Instagram, Facebook, puisque aujourd'hui, ça fonctionne mieux.
Ah, j'ai une question particulière. Est-ce que dans ton boulot, tu as un logiciel préféré que tu ouvres dès que tu allumes ton ordinateur et que tu adores être dessus?
Excel.
Excel, tout basiquement Excel.
C'est ouvert 24h sur 24.
C'est ouvert 24. Ça ne quitte jamais ton ordinateur?
Jamais.
Jamais, il est toujours ouvert avec des milliards de feuillets?
C'est ça. Avec plein de formules, plein de couleurs.
Tu t'éclates dessus, quoi.
Je m'éclate, oui, c'est indispensable. C'est indispensable.
Est-ce que tu as une petite affection pour ce logiciel quand même?
Oui.
Est-ce que tu verrais des améliorations à apporter? Ah,
on peut toujours améliorer les choses. Aujourd'hui, le métier de la finance, il est quand même bousculé par la digitalisation de, prenons voilà la Covid, qui a un peu bousculé notre quotidien.
Tout à fait.
Moi, dans mon équipe, on était tous digitalisés. On est passé en télétravail forcé. Mm-hmm. Ça n'a rien changé. Dans mon service, ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce qu'on était digitalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une facture, c'est directement digitalisé. Il n'y a pas de papier qui est gardé. Moi, aujourd'hui, j'ai zéro papier. À part le juridique, je ne garde zéro papier. Je ne garde vraiment aucun papier dans mon service. Donc tout est gardé. On est 100% dématérialisé. Et pareil, donc il y a le télétravail, mais aussi le coworking maintenant.
Ah, le travail d'équipe.
C'est ça. Et d'être éclaté. Nous, aujourd'hui, on a la chance de travailler dans un environnement qui s'appelle Garage, qui est un espace de coworking, et on travaille, on n'a pas de bureau attitré. Ça aussi, c'est une nouveauté. Aujourd'hui, on le voit apparaître dans pas mal d'entreprises. On entend, à la télé, on voit des reportages là-dessus. Et moi, aujourd'hui, je le vis. Donc, cet aspect-là. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas ma petite photo avec mes deux filles. J'ai pas de bureau attitré. Aujourd'hui, voilà, quand je viens au bureau, je me mets là où j'ai de la place.
Alors toi, t'es un véritable amoureux des chiffres, hein, ça je crois qu'on l'a bien compris. Alors tu oscilles entre Lille, Paris et Bruxelles, c'est donc là où se trouvent les différentes agences de Becoming, si j'ai bien compris. Et est-ce que c'est pas trop dur pour toi, parce que je suppose que tu dois quand même faire plusieurs déplacements dans la semaine ou dans le mois, c'est pas trop dur pour toi de gérer vie pro et vie perso, parce que j'ai l'impression que ton métier il est quand même très chronophage?
Complètement, c'est très très difficile dans la vie de tous les jours. Je suis marié, j'ai deux petites filles, et de jongler avec une vie professionnelle qui demande énormément de temps, c'est source de disputes, puisque voilà, quand même quand tu rentres chez toi le soir après ta longue journée, tu dois forcément et malheureusement retravailler des certaines choses. voilà, il faut être épaulé donc déjà de quelqu'un qui puisse comprendre et accepter voilà, cette vie.
Apporter du soutien.
Et apporter du soutien. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme voilà, qui m'a toujours accompagné dans mes choix. J'ai toujours pris des choix avec elle. Hein. J'ai toujours demandé si elle était d'accord pour mes différents choix. Elle me supporte. Elle supporte mon planning chargé. Et c'est vrai qu'avec avec des enfants, c'est un peu plus compliqué. Ça demande beaucoup plus de temps.
Et de logistique aussi.
De logistique, complètement. Mais avec voilà, avec quelqu'un en tout cas qui accepte, qui aide aussi, elle m'aide voilà, à m'organiser. C'est beaucoup plus facile.
Quel conseil, du coup, tu donnerais à des personnes qui, eux aussi, ont un métier très prenant et qui doivent aussi gérer une vie de famille? C'est quoi le... Est-ce qu'il y a un secret, un remède miracle pour ça?
Il n'y a pas de remède miracle. C'est surtout de l'organisation. Et c'est surtout de la communication avec son ou sa partenaire. Voilà, ça passe par l'organisation. De toute façon, si on n'est pas organisé, on va droit dans le mur. Voilà, je dirais communication et organisation.
En plus, c'est parfait. Toi, tu travailles dans une agence de com, donc techniquement, tu devrais être rodé.
C'est ça.
Et d'ailleurs, tu passes combien de temps devant ton ordinateur?
Trop de temps. Devant les écrans, en fait, c'est trop de temps. Après, devant un ordinateur, je dirais entre 10 heures faciles. Aujourd'hui, on entend parler le droit à la déconnexion. Et aussi, le télétravail n'a pas forcément aidé avec la Covid. Aujourd'hui, comme on est, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont lancées dans le télétravail, hein, qui font du télétravail parce qu'il était forcé dans pas mal d'entreprises. C'est à un moment donné, c'est où mettre le curseur, où mettre vraiment la frontière entre justement ma vie professionnelle, parce que moi personnellement, le télétravail, nous avant, on faisait déjà du télétravail dans ma boîte. On faisait déjà, on avait une à deux journées de télétravail avant. L'arrivée de la Covid.
Avec cette fameuse digitalisation qui te permettait de transporter ton petit bureau en fait partout où tu veux.
Exactement. On en faisait déjà avec la Covid. On a été un peu en 100% télétravail et forcément ça a un impact sur la vie privée puisque on peut. Bah, moi ça m'a permis de justement de démarrer plus tôt ma journée et aussi d'empiéter le midi donc d'être beaucoup plus efficace en tout cas sur le travail accompli. Mais c'est toujours pareil, c'est à quel moment je m'arrête. Voilà, la quantité de travail, elle est importante. Si on est passionné par son travail, ben on continue à travailler. Bon, et du coup, c'est difficile de mettre la ligne rouge. Et on est mangé par le travail.
Donc toi, tu penses que le télétravail, ça fausse en fait cette ligne du, eh ben là, c'est le bureau, là, c'est la zone où je me détends, où je suis en famille, et je suis chez moi en fait.
C'est difficile, et d'autant plus que pour certains collaborateurs. Moi, j'ai la chance d'avoir un bureau chez moi, d'avoir vraiment un espace dédié. Mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une pièce dédiée.
Donc, il y en a qui bossent dans leur cuisine, dans leur salon.
Ils n'ont pas forcément les conditions requises, réunies, pour travailler pleinement et faire la part des choses. Je trouve que c'est vraiment... Moi, ma femme, je lui ai installé un bureau, mais auparavant, moi, j'avais mon propre bureau, déjà, depuis avant la Covid. Mais elle travaillait dans la table de la salle à manger. Et c'est difficile de faire la nuance entre vie privée, vie professionnelle. Et avoir un espace dédié, c'est important.
Et donc, est-ce que tu penses, pour toi, que le télétravail, c'est plus avantageux que de travailler au bureau? Ou alors, au contraire, est-ce que c'est quand même bien d'y retourner de temps en temps au bureau? Est-ce que tu penses qu'un mix des deux, par exemple, on va dire une moitié de semaine, tu vas travailler dans là où tu vas travailler d'habitude, et l'autre moitié, bah, tu vas la passer chez toi, à travailler également. Est-ce que tu penses que c'est un bénéfice, ou alors c'est plutôt du coup du négatif?
Je vais même aller plus loin. C'est du bénéfice, hein. C'est complètement mélangé télétravail et présentiel, hein. C'est un bénéfice. Il faut le faire.
Parce que si on le fait pas, qu'est-ce qui se passe aussi? On prend sa maison pour un endroit où on travaille et ça pose problème. Bah,
c'est ça. Et après, ça casse aussi le lien social avec les collaborateurs. Après, il y a pas de règle définie, il y a pas la règle par excellence. Mais il faut mélanger trois jours sur site et 2 jours à la maison. C'est un bon compromis. Mais au-delà de ça, pour ça j'irai un peu plus loin. Ça dépend des tâches que l'on réalise. Moi, par exemple, quand je fais du télétravail. Je réalise des tâches où je dois justement être isolé et pas être en contact direct avec mes collaborateurs ou avec des personnes de mon entreprise. Donc à certaines périodes de la semaine, je m'isole, je reste chez moi et je travaille sur des sujets qui me demandent de l'attention, d'être vraiment coupé un peu du reste du monde. Et ça, finalement, j'en parle avec mes collaborateurs. Tout le monde me le dit, voilà, il y a des temps pour faire du télétravail et des temps pour être sur site.
Mais tous les métiers ne s'y prêtent pas forcément.
Mais tous les métiers, voilà. Quelqu'un qui est commercial...
S'il ne va pas voir les gens, il ne peut pas faire son métier.
Exactement. Une vendeuse, elle ne peut pas vendre chez elle.
C'est sûr, c'est sûr. On va terminer avec ma question préférée, je crois. Quel conseil donnerais-tu aux futurs étudiants qui vont entamer un cursus universitaire à la rentrée de septembre et ou slash des étudiants qui sont déjà en train de faire leurs études? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller durant leurs études? Qu'est-ce que tu peux leur dire qui pourrait les faire avancer ou voilà?
C'est d'être curieux. Poser beaucoup de questions, mais c'est vraiment d'être curieux et de sortir du cadre scolaire. Moi, quand j'étais à l'école, hein, dans le cadre universitaire, voilà, il y a ce qu'on apprend dans les livres, mais il faut mettre en perspective cela avec la vie professionnelle. Et je rappelais ça en début d'interview, c'est qu'avec des intervenants extérieurs du métier qui travaillent à côté, ça nous permet de sortir un peu du cadre purement scolaire des livres, et donc du coup de dupliquer un peu ce qu'on apprend avec la vie professionnelle. Et ça c'est très très important. Pour moi, c'est indispensable.
Et d'ailleurs, toi, est-ce que t'es intervenant? Est-ce que t'aimerais bien être intervenant auprès d'étudiants et parler de ton métier, leur donner envie de se lancer là-dedans?
Complètement. C'est une idée que j'ai derrière la tête et qui prend une importance très importante. On va dire tous les ans, j'en parle à ma femme. Je lui dis voilà, j'aimerais bien l'année prochaine, intervenir, transmettre quelque chose, mais de ma vie professionnelle, en tout cas. Avec la base scolaire, mais avec mon activité professionnelle.
Et cette envie de transmission, elle vient d'où, tu penses? Elle vient du fait que toi aussi, tu as eu cette chance d'avoir des intervenants et que du coup, tu te dis, j'ai envie de le faire aussi pour d'autres étudiants.
Exactement. Ça m'a marqué. C'est vraiment, c'est quelque chose de marquant. Dans ma vie étudiante, ça a vraiment été un fait très, très marquant pour moi.
Et bon, un petit message, du coup, c'était Catholic de Lille, hein, n'hésitez pas, je crois que Jonathan est disponible pour l'année prochaine. Bon, en tout cas, merci Jonathan d'avoir été avec moi pour cet avant-dernier épisode d'Altitude. Moi, j'avais passé un excellent moment, j'espère que toi aussi.
Complètement, c'était très agréable. À refaire.
Altitude est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Rendez-vous dans 2 semaines pour le 10e et dernier épisode d'Altitude avec un format très spécial. Merci pour vos écoutes et vos retours. Continuez à le faire, ça me permet de m'améliorer avec et pour vous dans ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager un maximum et à me laisser un petit message sur Apple Podcasts. Altitude est un podcast réalisé grâce à l'Université catholique de Lille. À très vite et prenez soin de vous !